Anne-Sophie Camary, bonjour. Alors, très heureux de vous rencontrer ici au BD Comic Strip Festival où vous présentez votre bande dessinée, donc Ces lignes qui tracent mon corps, paru aux éditions Casterman. Dans votre livre, on apprend donc que votre personnage quitte l'Iran, tout comme vous, et en fait, est-ce qu'il y a beaucoup d'autobiographie dans votre BD?
Dans mon BD?
Oui, est-ce que vous, c'est tout vous, ou est-ce qu'éventuellement vous avez romancé un...
Non, non, c'est tout moi. Tout est autobiographique. Il y en a une partie que je parle en général des situations de femmes en Iran qui c'est vraiment remarquable. Par exemple, je dis que c'est les lois contre discriminatives contre les femmes, mais tout ce que je raconte, c'est vraiment c'était fait réel.
Il y a quelques semaines, à Bruxelles, 10 000 personnes ont manifesté pour la démocratie, et parmi elles, Marianne Rajavi, présidente du Conseil national de la résistance iranienne. Et donc, ces personnes demandaient des sanctions européennes et l'inscription donc des gardiens de la révolution sur la liste des organismes terroristes. On a l'impression que ça bouge actuellement. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est la diaspora qui s'énerve un petit peu, ou est-ce que même dans le pays on sent que ça bouge?
En fait, je crois que la mentalité de gens dans le pays ça a changé. Et je crois que les femmes, maintenant, ils sont très courageuses. Ils n'acceptent pas de porter le voile. Ils sont on a beaucoup de progrès dans la mentalité des gens. Mais est-ce qu'il y en a vraiment est-ce que cet espoir, c'est qui un changement radical, ça va arriver dans quelques ans, on ne sait pas. Ça peut-être, il faut attendre. On ne sait pas. C'est assez compliqué.
Vous avez encore des contacts avec des personnes dans le pays qui sont restées, elles?
Oui, avec les amis, même ma famille, oui.
C'est encore facile d'avoir ces échanges où il y a vraiment une censure qui bloque tout.
Donc c'est en fait on peut parler, oui, mais on essaye de ne pas trop parler, d'avoir les paroles très parce que c'est possible en fait d'avoir les problèmes si le régime il est concentré sur une personne particulière, ça peut causer un problème, mais normalement on parle pas des sujets politiques, on parle nous. Alors,
selon la loi islamique, le père est propriétaire du sang de ses enfants. Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'inceste, voire au meurtre?
J'ai pas compris la question.
Donc, la loi islamique. Donc, le père est propriétaire du sang des enfants. Est-ce que ça lui donne le droit d'aller jusqu'à l'inceste, ou voire le meurtre?
Oui. En fait, ils le font. Il y a un truc dans la culture de l'Iran, qui c'est pas, mais même, le problème, c'est que les lois islamiques, ils le soutiennent. C'est protéger le honneur de famille, c'est plutôt pour les hommes. Le honneur de famille, c'est protégé par soit les frères, soit le père de famille. Et pour ça, selon les statistiques, on a beaucoup, beaucoup de pères qui le font, même dans quelques ans, il est arrivé, qui le font parce qu'ils pensent que c'est un acte qui est très religieux, c'est un acte
carrément.
Oui, qu'il faut le faire pour protéger leur religion et leur... voilà.
Les hommes qui ont droit de vie et de mort donc sur leurs femmes et leurs enfants, est-ce qu'ils ont vraiment envie que ça change finalement?
Je crois pas, mais on a moins de cette génération. Et du coup, en fait, c'est une question assez difficile. Comme on dit, toutes les gens qui font des crimes ou font des choses terribles dans les pays européens, on n'attend pas d'avoir leur vote. C'est juste qu'il sera toujours dans la société, une minorité ou à part de population. qu'il faut le contrôler un petit peu par les lois qui limitent leur parce qu'ils comprennent pas en fait. Hein, du coup, non, je crois pas. Hein, enfin,
mais je me suis rendu compte aussi en lisant votre bon décidé que toutes les femmes ne sont pas rebelles, parce qu'il y en a certaines, bien entendu, qui, comme votre professeur, qui dit l'amour n'existe pas. Donc, il faudra plus dessiner ces âneries. Et même la gynéco aussi considère ces femmes comme des prostituées, quoi.
À l'époque que j'ai grandi, je crois pas que le sujet de d'être courageux pour les femmes, c'était vraiment très populaire, parce que déjà c'était après révolution, hein, et on avait une période de très sombre de des gouvernements. Il a tué beaucoup de membres de opposants du régime qui étaient partis de cette révolution. Et je crois qu'après voir toutes ces morts, toutes les oppressions, on était dans très très position de comment dire bas dans la société. Et le problème, c'est qu'en fait on a cette culture. Quand j'ai dit protéger l'honneur pour les femmes, c'est aussi ça vient autant que les religions sont partie du gouvernement, sont partie de notre loi, sont partie de notre culture générale, qu'il dit qu'il faut protéger les familles. En fait, je crois que l'honneur de famille et famille en général, c'est un espace plus qu'humain dans notre société. Du coup, même pour les femmes, ils pensent que si j'ai fait quelque chose qui est contre la religion, de droit dans la religion, ils ont le droit de me traiter parce que c'est une menace pour sa famille, ce sacré de sa famille. Voilà. Du coup, il le fait. Et le sort.
Dans votre ouvrage, on découvre des chiffres assez édifiants, notamment donc sur le nombre de filles de moins de 15 ans qui doivent se marier. On parle aussi des meurtres d'honneur. J'ai lu, pour vous parler de cette interview, que selon l'ONU, l'Iran a exécuté 841 personnes cette année. C'est énorme, quoi.
Oui, c'est énorme. Et le fond, ils sont là. C'est triste souvent. En fait, je sais pas quoi dire. voilà.
Alors, le cinéma est synonyme d'évasion. Pour vous, je crois, comme pour votre personnage. Et vous avez eu aussi un choc en découvrant Ingrid Bergman dans Casablanca ou Gary Grant dans Un morceau aux trousses. Ça a été aussi une révélation.
C'était vrai. En fait, c'est pas juste. C'est la beauté du cinéma, la manière qu'il raconte l'histoire. C'est aussi pour moi, je crois que c'est être dans la salle de cinéma et tu t'immerges dans cette histoire et tu mets en place ces personnages. C'était entrer dans d'autres univers que pour moi, que j'avais dans la vie, j'avais rien vraiment. C'était magnifique, c'était merveilleux.
Comme vous dites, faire partie de ce monde magique. La révélation, elle est arrivée à quel âge, chez vous?
Cette révélation.
Ah, oui, de le cinéma, c'était.
J'avais 19 ans.
Alors, vous êtes diplômé en dessin industriel et puis vous arrivez en France et vous suivez des cours, des études en cinéma d'animation au Gobelin. Vous avez même travaillé pour le cinéma d'animation, AMA en 2016, Gigantosaurus, donc c'est une série, 2019-2022. Quels souvenirs gardez-vous de ces périodes de cinéma? Est-ce que ça vous a aidé pour cette BD?
Oui, effectivement, en fait, la formation que j'ai passée, c'était, ça m'a enrichi les bases pour l'écrire scénario, raconter l'histoire, faire les personnages, et aussi travailler dans le cinéma d'animation, même si, par exemple, je fais de personnages, ou je fais de mes packs pour les personnages, ou les posing. C'est un pratique pour en dessinant tout le temps, et aussi tu es partie du projet, tu sais comment faire un film. Ben voilà, effectivement, il y avait un gros, comment dire, effet positif sur mon travail. Voilà.
Dans le film, vous allez être filmé par une fille qui va finalement faire votre portrait. Et vous dites, elle a décidé de passer à poser nue pour se réapproprier une forme de liberté corporelle. Et vous avez l'air d'être en opposition avec ce qu'elle pense. Quelle était votre motivation profonde?
Oui, en fait, je crois que pour moi, c'était en fait. Dès que j'ai fait cette séance de modèle vivant, j'ai déjà vécu en France, je crois qu'en 2011, à 6 ans, 7 ans.
Ah oui,
dis. Du coup, j'ai déjà ce liberté de, j'ai trouvé ma liberté dans beaucoup, beaucoup de choses. Et c'était pas l'intérêt de juste aller dans un coup, juste aller dans un sens pour renoncer ma liberté. Et pour moi, c'était plutôt artistique. En fait, dès que j'ai participé à beaucoup de séances dans le modèle vivant, en tant que dessinateur, j'ai observé les modèles tout le temps. Ils étaient des sujets très intéressants pour moi. Ils viennent de parcours différents, de corps différents, en fait. Et je les trouvais très sportifs, très, et j'avais l'impression que je veux bien d'avoir cette expérience de changer à la place avec eux et même.
C'est ce que vous faites finalement, parce que on vous voit dessiner et en même temps. Et
exactement.
Être le modèle,
je me mets en place de eux pour, pour comprendre comment la poids de corps, ça va transpirer, c'est un peu technique. Et aussi, c'était intéressant aussi pour être en place dans un espace que le regard des gens, c'est différente sur ton corps. Voilà.
Ce qui est magnifique et finalement très impressionnant, ce sont les yeux qui sont expressifs comme pas possible. Grand ouvert, effacé même. Parfois, on ne les voit même pas, mais on sent qu'ils sont là. Je me suis demandé si c'était par rapport à la vision qu'on avait de la femme en Iran, où on ne voit finalement que les yeux quand elle porte le niqab ou le tchador.
Je crois que ça vient plus pour m'intéresser, l'intérêt personnel de cinéma plutôt expressionniste, que j'adore les hommes de plan insérer des yeux, que ça raconte beaucoup de choses. En fait, les yeux des gens, on parle avec les yeux, quand on parle avec les gens, on regarde. Il y a beaucoup de sentiments qu'on peut transmettre avec les yeux. Ça m'intéressait de le montrer, ça là.
Et les couleurs, toutes couleurs, à des moments chocs, bon, le rouge notamment, les jouets des enfants. Pourquoi cette parcimonie au niveau et le choix de ne pas mettre davantage de couleurs dans votre BD?
Parce que je pas déjà il y a le découpage de ce livre, c'était assez compliqué parce qu'il y en a beaucoup aller-retour vers le passé et le temps présent dans ce livre, et il faut que je distingue les deux. Et aussi dès que je parle de cette période sombre de ma vie, c'était aussi intéressant d'avoir cet choix de couleurs très contrasté, noir et blanc, et avoir un trace de couleur qui contraste aussi, voilà, qui ça peut signifier la peur, ça peut signifier de menace que je sentis à cette époque.
Est-ce qu'il y a un avant après le décès de Mahsa Amini, qui est décédé en septembre 2022? Est-ce que il y a eu aussi un choc dans la population iranienne avec ce qui s'est passé avec elle?
Bien sûr, on avait des mouvements de femmes de liberté qui ne tenaient pas après ça. Mais bien sûr, il a tout a changé en fait. On a déclaré qu'on ne peut pas supporter ce type de surtout on ne supporte pas si le font. On n'arrive pas à supporter ce type de comportement, on n'arrive pas de juste rester silence. à la face de ce type.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une survivante?
Comment?
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une survivante?
Survivante de mon passé, oui.
Et une des phrases sur le fantôme de la peur, est-ce qu'il vous hante encore?
Oui. Pas assez fort. En fait, j'avais. Je crois que j'avoue qu'après ce livre, c'est moi. Mais j'ai toujours très très j'ai ça reste toujours un combat.
Il y a des gens comme Salman Rushdie qui faisait l'objet d'une fatwa en 89 de Khomeini. Il y a Jafar Pallahi, Palme d'Or, maintenant qui va présenter la France aux Oscars. Vous êtes aussi une optimiste? Pour la vie, pour l'espoir d'un changement et...
En fait, je n'ai pas compris la rapport avec Salman Rushdie.
Mais c'est parce que... Je trouve que,
parce que ça,
Salman Rushdie, que de même que Jafar, sont quand même des gens positifs et optimistes.
Oui,
et donc, je me demandais si vous étiez un peu comme eux.
Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis positif. Oui, je suis. En fait, c'est un combat. Ça, il faut qu'on. C'est pas juste d'être positive. On essaye de. Pour moi, mon place, c'est plutôt de raconter l'histoire de qui m'attire et aussi changer. Pas forcément. Je suis pas en place de changer la mentalité des gens. C'est surtout essayer d'éduquer moi-même, de comprendre plus d'humanité, plus comprendre plus de situations et transmettre ça à d'autres gens. Et on espère qu'avec cette éducation, ça va avancer et ça va changer un petit peu. Voilà.
Un grand merci. Donc, on rappelle, Ces lignes qui tracent mon corps, paru aux éditions Casterman. Merci.
Merci à vous.